un nouveau film Alien, un nouveau film Mad Max, un nouveau film Beetlejuice, un conflit avec la Russie. Non, mais on est vraiment dans les années 80.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma,
bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On a les premières images du nouveau film Alien. Nouveau réalisateur, nouvelle DA, nouveau survivant et nouvel extraterrestre qui fait un gros roux. Alors, est-ce que ça fait envie ou pas du tout ? À côté de ça, Margot Robbie continue dans le petit jeu des licences et veut participer à l'adaptation au cinéma d'un jeu vidéo bien célèbre, les Sims. Bon Dieu Jésus-Marie-Joseph, pourquoi faire ? Dans la version audio, je vous expliquerai pourquoi mon idée de changement d'heure était une énorme connerie. Et dans la version vidéo, les trailers sympas à ne pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler de copies de stars dans un monde virtuel. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux plateformes, que ce soit sur YouTube en mettant la cloche, en cliquant sur s'abonner et tout ce genre de joyeuseté, ou aussi en podcast, que ce soit sur Spotify ou sur iTunes, et même toutes les autres plateformes qui existent dans le monde. Le pire podcast cinéma, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Oui, 7h du matin, partout à 7h du matin, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
C'est assez régulier que je me plaigne des suites de licences en boucle, que je dise « Oh là là, il y en a marre d'avoir toujours les mêmes films, ce serait bien au bout d'un moment de proposer quelque chose d'un peu original, s'il vous plaît. » Mais il y a un circuit dans lequel les licences, ça me dérange moins. Et c'est le cas du cinéma d'horreur. Parce qu'à la différence des autres genres, il y a quand même une idée dans le cinéma d'horreur quand on prend une licence, d'avoir une licence autour d'un personnage et que ce personnage vive de nouvelles aventures. Qu'à chaque fois on le mette dans un nouveau film, face à de nouvelles personnes, peut-être parfois face à un nouveau genre en lui-même et qu'on découvre qu'est-ce que ce personnage va faire à l'intérieur. Je veux dire, tu prends des gars comme Freddy, comme Michael Myers, comme Jason Voorhees, à chaque film tu te dis « Ok, c'est quoi le nouveau contexte ?» Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qui va se produire? Ok, d'accord, ils vont tuer tout le monde, mais qu'est-ce qui va les pousser à vouloir à un moment charcler dans le tas? Et il y a une licence auquel ce principe-là s'est appliqué encore mieux que sur toutes les autres, c'est la saga Alien. Et je vais même aller un peu plus loin, je crois qu'il y a aucun film Alien que j'aime pas. Parce que dans le premier, Tonton Ridley Scott, il pose les bases. Il veut te faire son huis clos dans l'espace, avec Ripley qui court en culotte partout, et attention, parce qu'il y a un gros machin chouette de l'espace qui veut croquer ton cul. Et évidemment, j'aime beaucoup le premier film, que ce soit pour son ambiance qui est assez planante et même assez brutale par instant, que ce soit le travail de Giger aussi sur la créature, mais aussi sur les décors qui sont très impressionnants. Non, vraiment, j'aime énormément le premier film. Puis arrive le 2 et on change de réal. C'est James Cameron qui prend les manettes. Et évidemment, en arrivant, il te met toute une ambiance beaucoup plus militaire. Harry Porn, voilà, le but c'est d'avoir de l'action au centre du récit, et c'est génial Aliens, vraiment c'est génial, de toute manière James Cameron n'a jamais fait un mauvais film. Puis il y a Alien 3 de David Fincher, déjà vachement moins aimé que les deux précédents, et plus j'y réfléchis, plus je me demande si Alien 3 n'est pas mon préféré de la saga. Oui, tu dis ça pour faire le malin et pas avoir le même avis que tout le monde ? Non, je dis ça parce que Alien 3, c'est quand même assez incroyable. On sait tous que David Fincher a renié le film, qui s'est fait baiser par les prods. Ok, d'accord. Mais cette idée de planète prison sous fond religieux assez étrange, avec cette Ripley au crâne rasé qui va devoir combattre des aliens dans une ambiance beaucoup plus poisseuse qu'à l'habitude, non ? Vraiment, j'aime beaucoup Alien 3. Le vrai mal-aimé dans le canon original, c'est surtout le quatrième, celui réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Mais encore une fois, je me dis que si t'aimes le travail de Jean-Pierre Jeunet, tu devrais plutôt apprécier ce quatrième Alien. C'est peut-être celui qui a le moins bien vieilli, peut-être, dans un certain sens. C'est celui qui a une des personnalités les plus tranchées, avec son côté assez radical, esthétique, années 90 du fin fond des tiroirs. Mais en vrai, plus j'y repense, plus j'ai envie de revoir le quatrième Alien. Ensuite, bon, il y a eu les deux films Alien vs Predator, des films que je n'ai pas vus, tout simplement parce que je suis allergique à la mention réalisé par Paul W.S. Anderson. Vraiment, tu me proposes un film de ce gars-là ou une projection IMAX d'une vasectomie, mon choix est très vite fait. Puis il y a le retour de Ridley Scott avec Prometheus puis Alien Covenant, des films que certains sur Internet adorent détester parce qu'un YouTuber vous a dit « J'ai raison et vous avez tort, c'est tout pourri !» Alors qu'en vrai, j'aime beaucoup, perso. Ridley Scott post-2010, c'est un peu qui tout double, en fait. Il faut adhérer au délire discours pseudo-philosophique et vision apocalyptique gigantesque, mais ça me parle et ça m'intéresse. Je trouve ça cruel, je trouve ça violent, je trouve ça regorge d'idées. Non, je trouve qu'on a été vraiment extrêmement dur avec ces films-là. Mon seul reproche, à la limite, ce serait que ça me fait un peu l'effet Mission Impossible. Vous voyez, ce que j'aimais à la base dans Mission Impossible, c'était l'idée qu'on changeait de réalisateur à chaque film et que du coup, bah, à chaque long-métrage, il y avait une nouvelle approche, une nouvelle ambition, une nouvelle manière de présenter la licence. Et là, bah, au bout d'un moment, t'as un type qui s'est installé et qui a commencé à faire tout le temps les mêmes formules. Et c'est un peu ce que je reprochais à ces deux films en question. Mais si vous voulez de la nouveauté, vous inquiétez pas. Elle arrive. On a longtemps cru à un nouveau film Alien qui aurait le retour de Ripley et qui serait réalisé par le papa de District 9, Neil Blomkamp. Le truc, c'est que le film est tombé à l'eau parce que t'as eu le rachat de la Fox par Disney et aussi tonton Ridley Scott qui a dit « j'ai envie d'en faire un troisième !» Mais ensuite a été annoncé un projet qui serait chapeauté par le réalisateur Fede Alvarez. Un projet qui était prévu pour la plateforme Hulu, appartenant à Disney, et qui au final a été annoncé pour une sortie dans les salles de cinéma. Et ce film s'appelle Alien Romulus. Et on a les premières images. Bon, avant de commenter ça, faut déjà dire un mot sur le type qui a fait ces images et qui s'appelle donc Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est un réalisateur uruguayen qui s'est fait connaître dans le monde des courts-métrages, mais surtout par son premier long qui était une reprise d'Evil Dead en 2013. On parle que de films mal aimés aujourd'hui, j'adore le Evil Dead de 2013. C'est super inventif, c'est ultra violent, ça fait 10 ans que je défends ce film, je vais continuer à le défendre, je vais pas m'arrêter. Parce que oui, effectivement, c'est moins goofy que Evil Dead 2 et Evil Dead 3, mais l'idée de retourner à la source de cette histoire et en plus de la traiter avec un certain premier degré, j'ai trouvé ça assez pertinent. Ensuite, il a fait Don't Breathe, cette fois-ci sur une histoire originale, avec des cambrioleurs qui débarquent chez un vieux monsieur aveugle inoffensif, qui est pas si inoffensif que ça, et je me rappelle de ma première découverte du film, à quel point j'étais choqué par le dernier acte, à quel point ce dernier acte était hardcore. Et puis encore une fois, il y avait plein d'idées, que ce soit dans la réalisation, avec ses plans séquences à travers les murs, des idées d'écriture. Non, je suis juste très triste en fait que Don't Breathe 2 soit aussi nul à chier comparé au premier. Et enfin, il a fait un troisième film qui s'appelle Millennium 2, en fait qui est la suite du Millennium de David Fincher, et je vais pas commenter celui-là parce que je l'ai pas vu. Mais vous comprenez donc à ma description que c'est à la fois petit 1, un type que j'aime bien, petit 2, un mec qui a déjà réussi à reprendre de la licence connue pour la renouveler tout en lui rendant hommage, et petit 3, un mec qui sait travailler sur le huis clos. Donc évidemment que c'était la meilleure personne pour faire un film Alien. Qui plus est, c'est encore un film qui décide de retourner à la source, puisque Alien Romulus, d'après ce qui a été annoncé, se déroule entre le premier film et le deuxième film. Et d'après les images qu'on a pu voir... Qu'est-ce que j'ai hâte. Alors, on le sait, on ne juge pas la qualité d'un film à un court teaser, surtout celui-là, il dure à peine une minute. On peut juste regarder les images et dire, est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que ça m'intéresse pas? Et perso, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que je sais quelle violence est capable de développer Fede Alvarez au cinéma. Et quand je vois ce caisson rempli de sang au début, je m'attends à un film Alien qui sera particulièrement brutal. Parce que quand je parle de brutalité, je vois aussi la manière qu'il a de représenter dans le trailer les facehuggers qui ont l'air d'être devenus une sorte de foule d'araignées poursuivant les protagonistes dans les couloirs. D'ailleurs, c'est intéressant dans le trailer de montrer si peu l'alien et d'au contraire se concentrer sur les facehuggers. C'est pas la même chose que de représenter les petites bébêtes que la grosse bébête. Et puis surtout, je m'interroge sur l'utilisation des CGI dans le film, parce que oui, évidemment, les facehuggers sont en CGI, mais quand on parle de la saga Alien, on se repose quand même sur des animatroniques, sur des costumes. Je suis intrigué par la manière dont il va avoir à gérer justement la partie CGI et la partie beaucoup plus effet physique. Parce qu'il y a du teasing en interview autour de tout ça. T'as la comédienne Isabella Merced, elle a raconté au Hollywood Reporter qu'il y avait une scène si violente que même les gens sur le tournage évitaient de regarder. Ça veut dire que même sur le tournage, c'était choquant. Ça veut dire qu'il y a un bon nombre d'effets pratiques. Le réalisateur en a parlé dans l'article aussi, je crois, il parle d'animatronique partout et d'une politique avec le moins de fond vert possible. Et tiens, d'ailleurs, on parle de casting, mais au casting, il y a Isabella Merced, mais aussi Kaylee Spenny. Kaylee Spenny qui est en train de démarrer, mais en flèche. C'est-à-dire que là, elle vient de faire Priscilla, elle va faire ensuite Civil War d'Alex Garland qui sort dans un mois, et ensuite le Alien, elle a un début de carrière qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que sur Alien Romulus, Ridley Scott est resté producteur. Et alors, d'après ce qui se raconte, c'est peut-être du bullshit, hein, mais je trouve ça assez joli comme anecdote. Quand Alvarez lui a montré la première version du film, il aurait déclaré, je cite, tu veux que je te dise quoi, Fédé? C'est putain de bien. Ouais, on peut difficilement faire plus clair que ça. Pareil que James Cameron a vu le film aussi, et qu'il a adoré. Non mais les planètes s'alignent, je vous dis. Et d'ailleurs, Fede Alvarez a déclaré dans le Hollywood Reporter, d'ailleurs je vous cite beaucoup l'article du Hollywood Reporter, je l'ai mis dans la description de l'émission si ça vous intéresse, Fede Alvarez a dit qu'il avait essayé d'inclure tous les films de la saga Alien à l'intérieur de celui-ci. Qu'on comprenne que ce film-là a des ramifications qui tendent vers tous les autres films d'Alien à Alien Covenant. Ça va être un festival de petits easter eggs complètement con, mais j'ai hâte de voir ça. Donc oui, voilà, je vous dis j'ai hâte, mais qu'est-ce que je peux dire de plus que ça? J'ai hâte. Évidemment, j'ai très très hâte de voir Alien Romulus. J'ai le sentiment ici, à l'inverse de celui que j'avais pendant les premiers teasings de The Exorcist Believer, le projet qui avait été repris par Blumhouse et où tu sentais que ça avait mis beaucoup de pognon sur la table, il fallait se dépêcher, il fallait absolument que le film soit rentable. Non, là je vois des gens passionnés, talentueux, qui prennent le projet à bras le corps, qui à la base devaient se cantonner à la case Hulu et au final le film est tellement impressionnant qu'ils disent ok, non, on va plutôt le balancer en salle, pardon. Ouais, c'est intriguant, c'est très intriguant. Maintenant, il faut attendre jusqu'au 16 août. ça va être long. Ça va être très, 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 très long. Ouais, alors pour ce qui va suivre, vous reprenez tout ce que je viens de dire sur les licences et vous le tournez dans l'autre sens. Vous allez comprendre. Il est peu dire que Margot Robbie a marqué l'année 2023 en interprétant le rôle de Barbie dans le film de Greta Gerwig. Un film sur lequel j'ai mon avis, mais c'est pas le sujet ici. C'est sympa sans plus et je trouve ça hyper cynique. Ouais, bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Et quitte à parler de cynisme, il faut voir les films que Mattel a annoncés ensuite, parce qu'ils se sont pas dit oh, « qu'est-ce qui a marché dans Barbie ? Ne serait-ce pas cette parabole féministe qui a intéressé le public ?» Non, ce qu'ils se sont dit, c'est « les gens, ils adorent les jouets, du coup, on va faire plein de films avec plein de jouets ! Du coup, vas-y qu'on t'annonce un film Uno, un film Hot Wheels, un film Polly Pocket !» Il y en a 14 des projets de ce genre, c'est un délire. Mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est ça le cynisme hollywoodien. Et quitte à prolonger dans le cynisme, il y a des gens qui se sont dit « Barbie, c'était un truc pour les meufs, et ça a bien marché. Qu'est-ce qu'elles aiment d'autre, les meufs ? Elles aiment les Sims ! Allez, on fait un film sur les Sims ! Les Sims, oh là là, mais y a rien qui va dans cette émission. On fait un film sur les Sims, voilà ce qu'ils ont dit. Je suis désolé, je me suis mis dans la peau des exécutifs de studio, je suis devenu une merde instantanément, c'était horrible. Un film Les Sims est donc en préparation et ce sera la première réalisation de la réalisatrice Kate Herron, alors qu'elle a surtout officié à la base dans la série télé. Elle avait réalisé plusieurs épisodes de la série Sex Education, mais surtout l'intégralité de la saison 1 de Loki. C'était chambé, la première saison de Loki. J'ai toujours pas terminé la 2, mon dieu. J'ai vu que le premier épisode, c'est vous dire. Et je citais Margot Robbie parce qu'on cite beaucoup son nom dans les annonces du film Le Sims, sauf que c'est pas vraiment son nom qu'il faudrait citer, mais plutôt celui de sa boîte de production. Oui, parce que Margot Robbie, elle a une boîte de production qui s'appelle Lucky Charm, probablement une référence au céréales Lucky Charm, et qui a à la base été créée pour qu'elle puisse avoir un plus grand contrôle créatif dans les films dans lesquels elle allait jouer. C'est pas la première et pas la dernière à faire ça. C'est pour ça que cette boîte a participé à bon nombre de films dans lesquels elle a joué, pour éviter que ce soit des exécutifs de studio qui s'occupent de son image et qu'elle puisse un peu mieux gérer le truc. Dans les films qu'ont produit sa boîte, il y a notamment Aitonia, il y a Birds of Prey et plus récemment Barbie. Mais la boîte de production en question s'est aussi développée autour de films mettant en avant un point de vue féminin, que ce soit au niveau des protagonistes quand ils ont produit le film L'étrangleur de Boston, et aussi autour des réalisatrices, notamment les deux films d'Emerald Fennell, que ce soit Promising Young Woman ou Saltburn, ont été produits par Lucky Charm. Le prochain, Yorgos Lanthimos aussi. Ou la série Netflix Made. J'ai pas vu, je sais même pas ce que c'est. Et du coup, on cite beaucoup Margot Robbie parce que c'est sa boîte de production qui va gérer une partie du film. Mais c'est une coproduction avec une autre boîte qui s'appelle Vertigo Entertainment, une boîte dont je pige pas du tout la ligne édito parce que, bon, alors à la base, ils font 90% de cinéma horrifique. C'est eux qu'on fait notamment ça, le clown, qu'on fait The Grudge, qu'on fait récemment Barbarian. Et parfois, ils font des trucs comme Lego Movie. Voilà, c'est-à-dire que c'est eux aussi qui gèrent bientôt le film Minecraft avec Jason Momoa et Jack Black. Il y a un film Minecraft avec Jason Momoa et Jack Black, déjà ça veut rien dire. C'est donc une association de talents qui, en même temps, m'étonne, mais aussi a du sens. Parce que d'un côté, il y a Margot Robbie pour la question du point de vue féminin, et ensuite, il y a Vertigo Entertainment pour tout le côté, justement, on sait travailler des licences connues, notamment des licences de jeux vidéo, ou de jeux tout court, hein, que ce soit Lego, Minecraft, on sait adapter ça au cinéma. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va donner niveau film ? J'en ai aucune foutre idée. En vrai, on a zéro pitch, hein. On en est encore à l'étape de l'écriture. Mais tiens, qu'est-ce que ça donnerait moi si j'écrivais un film Les Sims ? Tiens, on va essayer de réfléchir en tant qu'exec de studio. Je pense pas que je ferais un truc comme Barbie, avec un personnage des Sims qui se retrouve dans la vraie vie, parce que ce serait quand même un peu cramé vu que c'était l'histoire de Barbie. Non, je ferais plus un truc, je pense, à la Truman Show. Soit c'est un Sims qui, du jour au lendemain, va se rendre compte qu'il est un Sims, que sa vie est contrôlée, et du coup va vouloir s'échapper du monde du jeu vidéo. Soit alors ça va être l'inverse, c'est un humain qui va se retrouver téléporté dans le jeu des Sims et qui va devoir essayer de s'en sortir alors qu'un joueur essaye de le contrôler. Mais je pense qu'on va pas mal tourner autour de cette idée de échapper au contrôle du joueur. Tu saupoudres tout ça d'une petite parabole sociétale du style oui, dans le monde des Sims, on en a rien à foutre de tel ou tel sujet, mais on est quand même enfermé dans un système où il faut acheter des trucs, le monde capitaliste. Tu fous quelques easter eggs, genre un personnage qui arrive pas à sortir de la piscine parce qu'il y a pas d'échelle, ou un personnage qui se retrouve entre quatre murs sans avoir de porte. Et voilà, t'as un film sur les Sims. Merci, bonsoir. Je défendais tout à l'heure un peu les licences dans le système horrifique, mais là, je peux pas m'empêcher de voir déjà le placement marketing du bordel, le fait que ça va être vendu en mode « Regardez, c'est le nouveau film pour les meufs !» Faut pas présager du truc sans l'avoir vu, mais déjà, appeler l'héroïne de Barbie pour produire le film, je peux pas m'empêcher de me dire que ça va servir surtout à avoir un carton dans le trailer super racoleur avec marqué « Par les producteurs de Barbie !» Histoire que le succès de l'un permette de surfer et d'avoir un succès sur l'autre. Après, comme je disais, le film est en cours d'écriture. Il y a encore le temps même que le projet ne se fasse absolument pas, hein. Si on voit le film, ce sera pas avant fin 2025, voire mi-2026. Je crois que je suis déjà saoulé par les effets d'annonce qu'on va avoir autour de ce film. C'est devenu tellement grossier la manière dont c'est fait, je trouve ça insupportable. Ça se trouve, ce sera un film ultra dramatique. sur des êtres humains à qui on a enlevé la liberté de leurs propres actions et qu'on a enfermé dans un monde giga libéral où le but suprême de ta vie, c'est d'acheter un nouveau meuble. Imaginez que ce soit ça. Ce serait extraordinaire. Mais pour être honnête, j'en doute un peu. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va un peu parler de l'émission en elle-même. On va un peu revenir sur le test dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières semaines en mode « Je vais changer l'heure de diffusion, blabliblou, blibla. » Et au final, pourquoi c'était une grosse connerie ? Je me suis pas trop expliqué sur ce choix-là et je m'explique rarement sur les choix de l'émission, mais là, du coup, je vais en profiter pour le faire. J'avais envie de changer d'heure parce que il y a quand même un souci avec l'algorithme YouTube notamment, sur la question des horaires de sortie de l'émission. C'est-à-dire, quand tu sors une émission sur YouTube, il faut bien comprendre que l'algorithme YouTube calcule le succès de ton émission pendant les 3-4 premières heures de diffusion. Et du coup, il se dit, ok, est-ce que l'émission a bien marché pendant les 3-4 premières heures ? Si oui, on la met en avant, sinon, eh ben, on la fout au placard parce qu'il y a d'autres trucs à mettre en avant. Et du coup, le but était de changer d'heure pour que ça permette de faire plus de vues au lancement de l'émission et donc que l'émission soit plus mise en avant. Et en fait, ça n'a pas du tout marché comme ça. Parce que ce que j'espérais aussi, et là, c'est pour les gens qui écoutent la version audio, j'espérais aussi que du coup, on gagne des écoutes sur la version podcast parce que les gens se diraient « Ok, je vais écouter la version podcast et je materai le truc YouTube plus tard. » Je me suis dit « Peut-être qu'on va répartir les masses différemment. » Il faut jeter un coup d'œil, il faut faire des tests, il faut voir comment ça fonctionne. Donc j'ai fait ce test-là et ça marche pas. Voilà. Et j'ai pas besoin de faire 1000 tests pour m'en rendre compte. Avec une seule émission, je me suis rendu compte de ma connerie. Déjà, ça a eu aucune conversion sur les écoutes du podcast. Absolument pas. Alors vraiment, les gens qui regardent sur YouTube ne sont pas particulièrement plus allés écouter la version audio. Vraiment, les gens s'en sont un peu battus les couilles. Ce que je comprends aussi, parce que tu leur demandes soudainement de changer leurs habitudes, ils en ont pas particulièrement envie. Et en fait, les gens de la version YouTube, qui avaient l'habitude de regarder ça le matin, bah, j'ai bousillé leurs habitudes. Du coup, quand c'est sorti à midi, bah, ils étaient soit pas dispo, soit dans un décalage un petit peu complexe. Ce qui fait qu'en fait, les vues que faisait l'émission pendant 8 heures d'habitude, et donc 8 heures, ça correspondait à 7 plus 8, bon, vous comprenez, jusqu'à 16 heures, ça continuait à faire des vues ensuite entre 16 et 23 heures. Là, en fait, les vues s'arrêtaient beaucoup plus brusquement parce que, bah, en fait, c'était la nuit en France après. Je sais pas si j'explique convenablement le truc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a peut-être eu un meilleur démarrage, mais par contre, ça a entraîné un beaucoup plus gros crash de la vidéo. Et ça, c'est pas bon non plus pour l'algorithme. C'est horrible, hein, de réfléchir par ce genre de truc-là, mais c'est aussi tout le bordel de faire une émission comme celle-ci, c'est que tu veux au final qu'elle soit un peu plus écoutée et tout. Ça se repose évidemment sur le fait que bah, vous aimiez l'émission, vous la partagiez, tout ce genre de truc-là, mais ça demande aussi des décisions, moi, de mon côté, pour essayer de la faire fonctionner. Et mon idée du moment a pas marché. Voilà, parce que du coup, ça a juste créé un plus gros crash et même ma plateforme YouTube a pas compris et m'a dit « C'est bizarre, d'habitude, tes vidéos, elles font pas ce graphique-là. » Donc, c'était une connerie. On va rester comme d'habitude et on va trouver de nouvelles solutions. Je crois que surtout, ce qui m'embête dans cette histoire, et là, je vais être très honnête avec vous sur la partie podcast, c'est que je pense pas avoir encore en 100 émissions trouvé le truc sur la partie podcast où vous auriez une grande plus-value. Je voulais qu'il y ait deux sujets, je voulais que l'émission soit transmédia et je voulais justement qu'il y ait des trucs qui se répondent entre la version podcast et la version vidéo, mais j'ai pas encore trouvé un format particulièrement audio. Un truc où je me dis, ça, tiens, ça ne pourrait pas exister en vidéo et donc il y a la nécessité que ça existe que dans la partie podcast. J'ai pas encore trouvé le truc où je me dis, tiens, ça, ce serait parfait. Donc je réfléchis encore, si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, des idées de trucs qui marcheraient qu'en audio et que je pourrais faire dans cette section-là, parce que parfois c'est juste une news en plus et bah ça c'est un peu dommage, il faut trouver peut-être quelque chose d'autre, peut-être des interviews, peut-être des rencontres avec des gens, peut-être un nouveau chroniqueur, peut-être une chronique par de nouvelles personnes qui feraient des chroniques radio enregistrées chez eux de 4-5 minutes qui viendraient s'ajouter à l'intérieur, mais alors qui le ferait, ça c'est une autre discussion, je sais pas, j'ai pas encore trouvé la particularité audio de cette section. Et ça m'embête. C'est un peu la nouvelle étape. On va arrêter de faire n'importe quoi avec les horaires, on va arrêter de faire joujou sur toutes ces bêtises-là, on va essayer de se focus sur trouver quelque chose pour les spectateurs audio qui peuvent les faire vraiment kiffer. Et c'est peut-être comme ça, en fait, qu'on attirera au final les gens de YouTube dans la version audio, parce qu'ils se diront « Ok, attends, dans la version audio, il y a ce truc-là et ça, je veux vraiment pas le rater parce que c'est une chronique intéressante présentée par telle ou telle personne. » Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça le truc à faire. Des gens qui viendraient peut-être parler de films. Ah, on le fait déjà en fin de podcast. Je sais pas. Il faut qu'on y réfléchisse même avec vous aussi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, c'était la petite histoire de Victor qui tente des trucs autour de cette émission. D'un autre côté, ben, il faut toujours tenter des trucs, hein. On a fait plus de 100 épisodes, mais il faut continuer à renouveler l'émission. Le pire qui peut arriver à une émission ou à un podcast, c'est qu'on se repose sur ses acquis et qu'on fasse toujours et encore la même formule sans jamais en bouger. Je pense qu'il faut bouger les lignes. Faut proposer de nouveaux trucs. Et c'est ce que j'essaye de faire dans l'émission pour pas vous saouler et que vous ayez tout le temps des nouveaux trucs à découvrir. C'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas. Bref, voilà. C'était beaucoup d'introspection. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais j'avais envie de le faire. Et puis, on a avance. Allez, on avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, eh ben je la sélectionne et vous avez moyen de passer dans l'émission ensuite. Suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple. Et aujourd'hui, la question nous vient de Célian Abin qui demande « Aaron Taylor Johnson en 007, retour au James Bond originel pour éviter la polémique ou choix artistique ?» Déjà rien du tout, parce que pas à Aaron Taylor Johnson. Je me permets de prendre cette question aujourd'hui dans l'émission parce qu'elle m'a été posée énormément pour l'émission de mercredi et j'avais refusé d'y répondre à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ça ressemblait à une rumeur. Il y avait des trucs en mode « Il aurait été proposé à Aaron Taylor Johnson de participer au film. » Je me suis dit « Ok, attendons un peu, on va voir ce qui se passe. » Et 24 heures après, il s'est passé ce qui devait se passer. La rumeur a été démentie. Et je suis désolé, sur ça, j'ai eu le nez creux. Qu'est-ce qu'on a eu autour de cette histoire à la base ? Eh bien, ce qu'on a eu, c'est une rumeur qui est partie du tabloïd britannique The Sun, qui a dit que Aaron Taylor Johnson, on lui aurait proposé un contrat concernant James Bond. Et du coup, il avait plus qu'à signer, relire le truc, et ça y est, on était parti pour une nouvelle franchise de films avec un nouveau comédien, etc., etc. Sauf que c'était une rumeur, avec des sources proches du dossier, pas si proches, et qu'au final, Variety a démenti le truc en disant que... en fait, on lui a rien proposé du tout à Aaron Taylor Johnson. Et alors attention, ça veut pas dire que ça va pas se passer dans le futur. Ça veut pas dire que il va pas être peut-être le prochain James Bond. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et en vrai, le choix serait bon, parce que c'est un excellent comédien, le type est marrant, il peut vraiment se fondre dans le rôle, et si on regarde même niveau âge, il a plus ou moins exactement le même âge que Daniel Craig quand il a fait Casino Royale. Mais après, est-ce que ça arrivera ? On n'en sait rien. C'est la difficulté des rumeurs constantes dans le cinéma, surtout quand on gère de la news. Il faut réagir tout de suite à chaud. Il faut pas réfléchir. Vite, il y a une news qui tombe, il faut réagir, il faut donner son avis. Vite, 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 on réfléchit pas, on réagit. Le problème, c'est que réagir à une rumeur sans attendre la confirmation de quoi que ce soit, bien souvent, ça consiste à réagir sur du vent. Je dis pas que je le fais pas des fois, et je sais que je suis chiant quand je raconte tout ça, mais... Je pense que de temps en temps, il faut essayer d'avoir un principe de précaution sur ce genre de sujet. Là, c'est pas un sujet grave, mais c'est juste que dans les actualités qu'on a en ce moment, qui sont quand même assez complexes avec des sujets un peu lourds, essayer de prendre du recul et pas toujours réagir à chaud, c'est peut-être mieux. Et au-delà de ça, pour répondre à la question qui m'a été posée, polémique ou choix artistique, c'est quoi le sous-texte de la question ? C'est quoi le sous-texte de cette question ? C'est « Oh là là, ça aurait été la polémique si James Bond y était noir ?» Non, parce que faut dire les termes, c'est ça la possible polémique. La possible polémique, ça aurait été que, comme beaucoup de gens le réclament, on annonce quelqu'un comme Idris Elba, voilà Idris Elba qui avait été une grosse rumeur pour être James Bond, et que soudainement, ça parte en clash parce que « Quoi ? Un James Bond noir ? C'est encore la faute des wokistes !» Sauf que je pense que c'est un faux débat. Il n'y aurait jamais eu une polémique de ce genre-là. Je pense que Barbara Broccoli, qui gère la licence James Bond, oui, elle s'appelle Barbara Broccoli, c'est très marrant. Elle a jamais envisagé qu'il y ait un James Bond noir. C'est-à-dire que tu regardes les noms qui circulent en ce moment, c'est Cillian Murphy, c'est Henry Cavill, c'est Aaron Taylor Johnson. Ça reste quand même très très blanc tout ça. Et je vais même être plus honnête que ça. Je m'en tape un peu de qui va interpréter le nouveau James Bond. C'est-à-dire blanc ou noir ou quoi que ce soit, j'en ai absolument rien à taper. Parce que de toute manière, dès qu'un nouveau comédien est annoncé dans un rôle, ça gueule. Quoi qu'il arrive, ça gueule. Il suffit de voir à chaque fois ce qu'on a eu avec les Batman, où à chaque fois on disait « Oh là là, non, ce nouveau Batman, ça a pas marché !» Puis on voyait le film, et en fait, à chaque fois, le Batman était super. Ben Affleck, les tombereaux de merde qu'il a pris sur la gueule, Christian Bale aussi à l'époque. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas le comédien choisi, mais l'équipe qui va l'entourer. C'est-à-dire que pour être tout à fait honnête, quand je regarde Skyfall et que je le considère comme un chef-d'œuvre et que je regarde Quantum of Solace et que je trouve que c'est une giga merde, je pense pas que le responsable dans cette histoire ce soit particulièrement Daniel Craig. Est-ce que vous me suivez ? Moi, ce que j'attends, c'est de savoir qui seront les réals attachés au projet, qui seront les scénaristes, qui sont les gens qui vont développer l'univers de ce nouveau James Bond. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. C'est plus intéressant et c'est plus important que n'importe quel choix pseudo-polémique de comédien qui va jouer ce rôle. Et d'ailleurs, en vrai, vous voulez un vrai choix polémique ? Faites de James Bond une meuf et prenez Ana de Armas. Elle était extraordinaire dans le dernier film James Bond. Voilà, faites Jane Bond, histoire d'emmerder vraiment tous les gens. Prenez Ana de Armas, elle a une des meilleures scènes du dernier, et allez-y. Allez-y à fond. Mais vraiment, franchement, Jane Bond, je suis giga chaud. Franchement, premier degré, je suis giga chaud. Ça emmerderait tellement des gens. En fait, c'est ouf, Je veux pas tomber dans les paraboles wokistes débiles ou quoi, mais c'est juste des fois, je me dis, oh, ça ferait chier du monde. Ce serait marrant. Après, pour le reste, on attend de voir. De toute manière, le prochain film de James Bond, avant qu'on le voit, sera probablement pas avant 2027. De l'eau aura coulé sous les ponts d'ici là.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle. Non, un auditeur ou une auditrice a envoyé un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Et cette personne-là, eh ben, passe dans l'émission aujourd'hui. C'est pas moi qui parle, c'est cette personne-là. Si vous voulez passer dans l'émission aussi, envoyez un mail, environ 3 minutes, film récent ou non, vous faites ce que vous voulez. Et l'auditeur du jour a décidé de nous parler d'un film qui fait quand même sacrément écho à des événements qu'on a eu il y a quelques mois dans le monde d'Hollywood. Il s'appelle Romain. Romain, c'est à toi.
Salut à tous les fans de Le Cinéma. Aujourd'hui, je suis super excité de plonger dans un film unique et captivant, Le Congrès. Le Congrès, réalisé par Harry Fullman en 2013, est une œuvre fascinante qui défie les conventions du cinéma traditionnel. Fullman, cinéaste israélien reconnu pour son film documentaire animé Valse avec Bachir en 2008, avait reçu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Le Congrès suit l'histoire de Robin Wright, jouée par Robin Wright elle-même, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Si vous ne voyez pas qui c'est, elle est régulièrement classée comme une des pires méchantes de film pour son rôle de Jenny dans Forrest Gump. Oui, oui. Elle incarne son propre rôle dans une version alternative d'elle-même, en star qui, aux yeux des studios, a passé son prime. Dans ce futur dystopique, les acteurs peuvent vendre leurs images numériques à un studio qui les utilise pour créer des personnages virtuels à l'infini. Avec Le Congrès, Fullman a une fois de plus repoussé les frontières du cinéma en mêlant prise de vue réelle et animation pour créer une expérience cinématographique totalement immersive. Il nous plonge dans un monde de réalité virtuelle où l'identité se fond dans un océan d'illusions, une exploration audacieuse des frontières entre réalité et imagination, entre l'humain et le virtuel. Avec une structure narrative non conventionnelle, Fullman nous transporte d'une réalité à l'autre, mêlant prise de vue réelle et animation de manière magistrale. Cette approche laisse le spectateur dans un état de confusion délibérée, nous obligeant à remettre en question ce que nous percevons comme vrai. C'est d'ailleurs ici que le film peut trouver un peu ses limites, avec une narration parfois un peu difficile à décrypter et du symbolisme à tout va. Par contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Harry Fullman, c'est d'avoir eu le nez sacrément creux pour un film sorti en 2013. Parce que comment ne pas faire le parallèle avec les débats pendant la grève du cinéma de 2023, quand une des clauses que les studios et les plateformes ne voulaient pas lâcher était d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images de synthèse des acteurs et pouvoir les utiliser par la suite sans présence physique ni consentement obligatoire. Dans Le Congrès, on assiste à une version dystopique de cette idée où la technologie a supplanté la réalité, où l'essence même de ce qui fait un être humain est remise en question. Ce parallèle nous invite à réfléchir sur les limites éthiques de la technologie et sur la façon dont elle peut être utilisée pour manipuler et contrôler. Le Congrès nous rappelle que même dans un monde dominé par la technologie, il est essentiel de préserver notre humanité et notre capacité à créer des connexions authentiques. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera envie de voir le film Le Congrès. Merci à Victor pour bercer mes semaines de ces podcasts et bon film à tous.
C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Quelle semaine avons-nous vécu entre les changements d'heure et tout ce genre d'aventure? Oh, c'était rigolo, on s'est bien amusé. Il est temps maintenant de profiter du week-end et d'aller se reposer, de se rapprocher de ses proches ou de ne rien faire en restant enfermé devant un écran tout le week-end. C'est aussi une possibilité et je vous encourage à la faire parce qu'elle est super. Bref, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.